Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Désirer un enfant n'est pas évident pour tous. Comment savoir si l'on désire vraiment un enfant? Qu'est-ce qui nourrit ce désir et quelles sont les peurs que l'on retrouve souvent lorsqu'il s'agit de se projeter en tant que parent? Mathilde Bouichou a écrit un livre à ce sujet et nous explique dans cet épisode tous les questionnements auxquels on peut faire face lorsqu'il s'agit d'avoir un enfant et nous partage des pistes pour accompagner au mieux cette période de potentielle grande transformation. Bonne écoute! Bonjour Mathilde!
Bonjour Stéphanie.
Je suis hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. Et petite particularité pour les adultes de demain, on se retrouve en face à face. Et contrairement à ce que je fais d'habitude à faire des interviews à distance, j'ai la chance d'être en face de toi à une table en terrasse, dehors. Donc si vous entendez quelques bruits autour, c'est parce qu'on profite encore des quelques rayons de soleil. On s'est rencontrés avec Mathilde parce qu'on partage une activité commune. Tu es la fondatrice du podcast Parentalité, l'un des premiers podcasts en France traitant des sujets de parentalité. Tu es psychologue clinicienne et spécialisée en périnatalité. Tu as publié un livre aux éditions Solar qui s'appelle « Désir d'enfant », qui est le sujet du jour de notre podcast. Alors tu le sais, dans mon podcast, on parle beaucoup d'enfants, mais j'ai encore jamais parlé de ce qui se passait avant et plus précisément de ce moment si particulier, le désir d'enfant. Pour démarrer, j'aimerais bien que tu nous dises si aujourd'hui, les adultes ont moins envie d'avoir des enfants qu'avant.
Pour répondre à cette question, je vais peut-être faire un peu de digression pour y revenir après, parce qu'il me semble important de rappeler quelques notions par rapport à cette question de cette notion de désir d'enfant. Dans l'histoire, c'est une notion qui est très récente. C'est seulement depuis le développement de la contraception, l'IVG, qui ont donné la possibilité aux femmes de décider ou non d'avoir des enfants, que finalement cette question du désir d'enfant a émergé. Avant, finalement, les années 60-70, cette question-là, elle n'existait pas. Les femmes avaient des enfants. Ou n'en avait pas, mais est-ce qu'elle désirait ou pas en avoir, c'était pas du tout une question. Donc je pense que c'est important aussi de remettre un peu les choses dans ce contexte un peu historique. Cette question du désir d'enfant, elle fait aussi émerger la question du non-désir d'enfant, alors qui n'est pas d'ailleurs le sujet de mon livre. Voilà, je ne traite pas de cette question parce que c'est vraiment aussi un sujet à part entière. Alors je vais quand même en dire quelques mots parce que c'est lié, mais ça mériterait d'être traité aussi dans toute sa complexité et toutes ses nuances. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui revendiquent le choix de ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, cette parole, elle est beaucoup plus libre qu'elle n'a été autrefois. D'ailleurs, il me semble, alors, je n'ai pas des chiffres exacts en tête, mais finalement, le nombre de femmes qui n'ont pas d'enfants est relativement stable depuis pas mal d'années. Mais voilà, je crois que le contexte social, il change, il évolue. Et du coup, il donne des projecteurs, il met la lumière différemment autour de cette question-là. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait moins... En tout cas, c'est une question. Est-ce que vraiment il y a moins de femmes aujourd'hui qu'hier qui ne veulent pas d'enfants ou plus de femmes qui veulent des enfants? Je pense qu'il y a des études, mais il faut toujours regarder de manière très scrupuleuse. Il y a aussi des questions d'âge, de tranche d'âge. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les femmes peuvent davantage faire ce choix parce qu'elles peuvent réguler leur fécondité, en tout cas avoir une action dessus, et elles peuvent exprimer ce choix qui certainement existe depuis Voilà. J'imagine que depuis toujours, des femmes n'ont pas voulu avoir d'enfants, sauf qu'à certaines époques, ça ne se disait pas, alors qu'aujourd'hui, ça commence à se dire voilà, à être accueillie et en tout cas, j'espère, respectée. Après, ce qu'on observe, pour faire un petit plus un focus sur le désir d'enfant aujourd'hui, c'est que quand même le nombre de naissances, il diminue progressivement hein, depuis 5 ans environ, et qu'en 2022, le taux de natalité n'a jamais été aussi bas que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on peut... je pense qu'il y a plusieurs pistes et que c'est multifactoriel, ce qui vient expliquer cette baisse de la natalité. Il y a des causes qui sont déjà présentes depuis pas mal d'années, donc l'évolution de la femme, de sa place dans la société, le fait qu'elle travaille, qu'elle fasse des études de plus en plus longues. Donc tout ça, ça a un impact sur la natalité. Le fait aussi qu'il y a un meilleur accès aux soins. Voilà, ça c'est aussi un des facteurs qui a pu être mis en avant, l'accès à la contraception notamment. Et puis tout ça a fait reculer l'âge pour devenir mère. Je crois qu'en 2022, l'âge moyen est de, je crois qu'on est passé à 31 ans, l'âge moyen du premier enfant en France. Et on sait qu'il y a un lien entre la fertilité et l'âge maternel. Donc plus l'âge maternel recule, plus la fécondité baisse, donc ce qui augmente le nombre de femmes qui vont peut-être avoir recours à une aide médicale à la procréation, mais que cette aide qui peut être très soutenante et qui peut permettre de faire aboutir ce projet, bah, elle n'est pas 100% viable, il n'y a pas 100% de réussite. Donc voilà, ça amène aussi que des femmes, des hommes, à la fin de ce parcours, voilà, n'aient pas d'enfants aussi. Hein. Donc tout ça, ça a un impact sur la natalité. Après, par rapport aux dernières années, voilà, on peut se questionner un peu sur l'impact du Covid. Et peut-être de manière plus globale, je dirais, au-delà du Covid, qui a quand même bouleversé un peu beaucoup la manière dont on pouvait se représenter les choses, le monde. Voilà, c'est venu quand même bousculer pas mal de choses. Il y a aussi des questions politiques, économiques, écologiques, qui sont de plus en plus importantes. Voilà, je crois que cette année... qui est une des années records en termes de chaleur. Voilà, là, on touche vraiment. Il y a eu une accélération en plus ces 2-3 dernières années, justement, du réchauffement climatique. On le perçoit vraiment dans notre quotidien. Voilà, aujourd'hui, on est le 11 octobre et on est en t-shirt dehors. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Et puis, il y a aussi les questions des guerres. Voilà, la guerre en Ukraine, bon, voilà, les événements aussi des derniers jours. Voilà, tout ça crée un climat qui est extrêmement anxiogène, où légitimement, on peut se demander... Bah, quel monde on va offrir à nos enfants. Et donc ça amène beaucoup de personnes à se questionner. Et là, comment des angoisses qui sont tout à fait légitimes hein, par rapport à ce contexte bah, vont venir rencontrer, percuter, chahuter ce désir ou non d'avoir des enfants.
J'ai l'impression que lorsqu'on parle de désir d'enfant, il y a plusieurs catégories d'adultes. Il y a ceux qui, depuis toujours, ont rêvé d'avoir des enfants, et d'autres qui vont peut-être éternellement se poser la question s'ils le veulent ou non. Comment ça se passe pour peut-être cette deuxième catégorie de futurs ou non futurs parents? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir un déclic pour désirer un enfant?
Moi, je vais dire d'emblée, je ne crois pas trop à cette notion de déclic, parce que pour moi, qui dit déclic, dit magique. Et que dans la vie, il y a peu de choses qui sont magiques. Malheureusement, on aimerait bien, mais ça ne marche pas comme ça. Je pense déjà, c'est... Qu'est-ce qu'on entend par désir aussi? Et moi, ce que je peux entendre, en tout cas, des personnes qui viennent dans mon cabinet, alors de fait, c'est biaisé, parce que les personnes qui viennent, elles savent que je suis psychologue spécialisée en périnatalité. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même, d'une certaine manière, un peu un biais par rapport à ça. Et qui se questionnent, qui s'interrogent, qui expriment souvent une très grande ambivalence. Par rapport à ce désir et qui du coup se sentent perdus et qui d'ailleurs vont dire j'attends le déclic. Alors, le déclic, est-ce que c'est les conditions ? Voilà, on peut avoir besoin qu'un certain nombre de conditions, notamment matérielles, soient réunies pour se dire bah, « là, je vais accueillir un enfant dans de bonnes conditions ». Correctement, donc avoir le bon job, la place dans l'appartement ou la maison, etc. Et puis après, il y a toutes les raisons qui vont venir nourrir ce qu'est le désir. Ce que je peux appeler, moi, les moteurs du désir et tout ce qui va aussi... être dans cette ambivalence, il y a d'un côté les moteurs et puis de l'autre, il y a les freins, les peurs. Et souvent, moi, ce que je peux entendre, c'est que cette question « est-ce que je veux vraiment un enfant ?» c'est un peu, je dis parfois, l'arbre qui cache la forêt. Il y a d'ailleurs tout le premier chapitre de mon livre est sur cette question-là. Et justement, c'est bah, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Quelles sont les inquiétudes ? Quelles sont les angoisses ? Quelles sont les peurs ? Qu'est-ce qui viendrait freiner ? Freiner ce désir. Et c'est vrai que moi, les personnes, c'est là où je disais, il y a un biais qui me consulte, bien souvent, ce désir, il est présent, mais il génère de l'inquiétude. Parce qu'en effet, devenir parent, c'est un bouleversement, c'est extrêmement inquiétant, c'est une inconnue dans laquelle on va plonger et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Et en plus, comme je le disais, dans le monde d'aujourd'hui, c'est encore plus inquiétant. Donc voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait de déclic, mais c'est comment chacun finalement va questionner voilà, ça et va pouvoir mettre à jour justement les freins, les peurs qui parfois vont prendre le dessus hein, sur le désir. Voilà, après ça c'est comment chacun va co-construire avec ça. Mais pour revenir à ce que tu disais, et peut-être pour parler un peu des moteurs, de qu'est-ce qui peut venir motiver le désir d'enfant. Alors, je reprends cette image d'Estelle Philippot-Métraux que je détaille aussi dans le livre, qui est cette image du millefeuille. Et j'aime beaucoup cette image du millefeuille parce que le désir d'enfant, il est composé de plein de choses. Il y a la dimension sociale. Il faut avoir des enfants. Voilà, pour faire comme tout le monde, pour faire comme ses parents, pour voilà, on peut être imprégné de ça. Il peut y avoir la dimension de la transmission. Voilà, j'ai envie d'avoir un enfant pour transmettre ce que j'ai reçu, ou justement j'ai reçu quelque chose qui est lourd et qui est très difficile, et du coup j'ai envie de transmettre tout l'inverse à un enfant, ou de transmettre. Autrefois, on devait transmettre le patrimoine. Donc ça, c'est toute la dimension. C'est normal d'avoir des enfants. Voilà. Avec ce poids et parfois cette injonction sociale qui peut amener en effet les personnes à se dire bah, « Oui, tout le monde a des enfants autour de moi, mais moi, qu'est-ce qu'il en est réellement, concrètement pour moi ? Est-ce que j'ai envie de faire comme les autres ou est-ce que ça touche à autre chose pour moi ?» Il y a toute la dimension « c'est normal d'avoir des enfants ». Alors ça, qui rejoint voilà, un peu cette idée bah, que les femmes... depuis tout temps sont constituées pour avoir des enfants avec cette idée voilà, que ça serait leur rôle, avec un peu aussi parfois cette notion voilà, d'appel du ventre. Et certaines femmes hein, d'ailleurs peuvent dire « je le sens dans mes entrailles, voilà, le ventre vide, voilà, je sens que j'ai envie de porter un enfant, voilà, que c'est quelque chose qui se joue parfois dans la chair ». Donc on peut avoir aussi cette dimension-là. Il y en a pour d'autres, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est la rencontre avec un homme, une femme, un partenaire qui va donner envie voilà, de concrétiser cet amour sous cette forme-là. Il y a d'autres manières de le concrétiser, mais ça peut être une des formes de le concrétiser. Voilà, ou là... pour rejoindre aussi un peu ce que tu disais, en effet, voilà, parfois c'est la rencontre qui fait émerger ce désir, alors qu'il y a des femmes qui vont dire qu'elles ont ce désir depuis qu'elles sont toutes petites. Et là, ça peut rejoindre une autre dimension du désir d'enfant qui est c'est vital. Pour certaines personnes, c'est vital d'avoir des enfants. Alors là aussi, pour plein de raisons, celle qu'on énonce le plus souvent, bah, c'est... pour faire un peu conjurer les angoisses de mort, laisser une trace qui est une forme de continuité de la vie. Voilà, et ça, moi, je le vois pour des personnes qui sont en parcours de PMA où le parcours aboutit pas. Et ben là, il y a quelque chose, parfois, ils disent « mais je vais mourir si j'ai pas d'enfant ». Donc il y a toutes ces dimensions, plus toutes les dimensions liées à la personne, l'histoire personnelle, l'histoire familiale. Voilà. C'est vraiment très complexe. Et puis je crois qu'il y a aussi une part très mystérieuse dans le désir d'enfant. Parce que de manière très rationnelle, c'est un peu fou d'avoir des enfants. Et encore plus aujourd'hui avec tout ce que j'ai, voilà, tout ce qu'on a dit précédemment. Et pourtant, il y a des personnes qui vont gravir des montagnes, qui vont parfois faire des choses que jamais ils n'auraient imaginé qu'ils feraient pour pouvoir avoir des enfants. Que ça soit spontanément, avec leur gamète, pas avec leur gamète, l'adoption, voilà. Quelles que soient les modalités finalement ou de la manière dont on devient parent, voilà, des personnes qui... Et je crois que cette part-là aussi, elle est mystérieuse et que c'est important de laisser de la part, en tout cas, à ce mystère, de ne pas tout expliquer. Voilà. Et je crois que dans le désir d'enfant, il y a une part qui est en lien avec l'élan vital. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui ne veulent pas d'enfants n'ont pas d'élan vital. Hein. Voilà, ça, je pense que c'est important de le dire. Avoir des enfants, ça peut être se connecter à la vie, porter la vie, qu'est-ce qui nous rend vivants. Et là aussi, pour les personnes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants, il y a plein d'autres manières de se sentir vivant, d'être fécond. Voilà, la fécondité, ce n'est pas que la natalité, ça peut prendre plein d'autres formes.
Parce que c'est presque philosophique. Est-ce que, selon toi, après tout ce que tu as dit, ce serait normal de ne pas désirer d'avoir un enfant ?
Oui, et en tout cas, je crois qu'il n'y a aucune obligation à désirer des enfants. Je crois que les personnes qui ne désirent pas d'enfants sont tout à fait légitimes, qu'il n'y a aucun jugement à porter là-dessus, même si elles sont encore très critiquées, traitées d'égoïstes ou de... Moi, il y a vraiment un truc qui me dérange, c'est qu'un homme qui n'a pas d'enfants, on ne lui posera jamais la question. On ne lui demandera jamais de se justifier par rapport à ça. Alors pourquoi on demande aux femmes de se justifier par rapport à des choix qui sont intimes, singuliers, personnels, et sur lesquels la société n'a aucun regard à porter? Par contre, la société, elle a un travail à faire de modifier son regard sur les personnes, d'accueillir avec davantage de bienveillance. Je crois que... on est encore quand même dans une société très patriarcale, que c'est à la société d'évoluer et pas aux femmes de se justifier par rapport à des choix personnels et intimes qui ne regardent personne.
Mais si ces femmes ont fait ce choix intime, comment être certain qu'elles ne le regretteront pas à l'avenir ?
Alors, cette question du regret, c'est toujours la menace qui est donnée à ces femmes-là. Tu vas le regretter. Alors, il y a des études qui montrent que la majorité des femmes qui font ce choix ne le regrettent absolument pas. Peut-être, évidemment, qu'il y en a certaines qui le regrettent, mais je pense que c'est important de souligner que ce n'est pas la majorité. Et puis, la question qui se pose, c'est dans quel contexte et comment a été fait ce choix et posé ce choix ? Est-ce que c'est un choix pleinement libre, pleinement réfléchi, pensé, posé, avec lequel la personne... est complètement en accord, confortable avec ça, ou pas. Si le choix n'a pas été très confortable et donc n'est pas vraiment pleinement un choix, peut-être que ça amènera du regret, peut-être pas. Je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, si ce choix il est difficile à poser, quelles que soient les raisons, je pense que là, c'est important d'être accompagné. D'être accompagné pour pas se retrouver dans cette situation de regretter. Et que d'aller explorer les tenants, les aboutissants, les angoisses. Qu'est-ce qui fait que j'ai plutôt envie de pas avoir d'enfant ? Qu'est-ce que je vais faire pour être pleinement confortable avec ça ? Mais la question se pose aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce que je vais faire pour que j'ai plutôt envie d'avoir un enfant ? Mais qu'est-ce que je vais faire et comment je peux me faire accompagner et réfléchir à cette question en lien avec mon histoire, le sens que ça a, pour être pleinement confortable avec ça. Parce qu'il y a aussi des femmes qui ont des enfants et qui regrettent d'avoir eu des enfants. Ça ne veut pas dire qu'elles n'aiment pas leurs enfants. hein, mais voilà, elles regrettent, leur regret porte davantage sur le rôle social, le poids, la contrainte que ça génère pour elles. Donc, comme pour tout choix, est-ce que ce choix, il est confortable ou pas? Et s'il n'est pas confortable, ben, voilà, quelques séances chez le psy, parfois, ça aide à y voir plus clair, à poser les choses pour justement pas se retrouver dans une situation de regret. Et puis, parfois, on ne peut pas toujours tout anticiper. Donc parfois, le regret, il arrive alors qu'on a fait un choix à un moment donné et qu'on se retrouve un peu coincé avec ça. Voilà. Mais ça, on ne peut pas toujours l'anticiper non plus. Mais quand, s'il arrive le regret, là aussi, ça peut s'accompagner pour être apaisé. Voilà. L'objectif, ce n'est pas que ça soit source de souffrance.
Est-ce que dans ce cas où on a décidé de ne pas vouloir d'enfant, on peut se poser la question si c'est parce qu'on est avec le bon partenaire de vie ?
Oui, alors ça revient à cette couche du millefeuille dont je parlais tout à l'heure, où c'est la rencontre qui fait émerger le désir d'enfant. Et moi, en tout cas, j'entends parfois des femmes me raconter que elles ont eu plusieurs partenaires, mais les autres, en effet, cette question-là ne se posait pas, ou n'avait pas émergé, ou elles ne le voyaient pas du tout comme père. Donc, c'est clair que ça ne serait pas le père de leur enfant. Et donc, parfois, cette rencontre aussi pour... cette rencontre, on va se dire, bah, ce partenaire-là va être le père, la mère, le parent de mon enfant. Parfois, ça met du temps aussi. Parfois, ça n'arrive pas. C'est ce qui se passe aussi... beaucoup pour des femmes, moi, que je peux accompagner, qui sont dans des parcours solo. Alors, souvent, des femmes dans les parcours solo qui approchent de la quarantaine, qui auraient aimé rencontrer quelqu'un et que ce désir d'enfant qu'elles portent rencontre le désir d'un autre et que ça soit le désir d'un couple. Et parfois, le désir de maternité, il est plus fort. Donc, le projet d'avoir un enfant va passer avant le projet d'être en couple. Alors aujourd'hui, on voit aussi des femmes qui sont dans cette démarche de maternité solo et qui, pour lesquelles la question du couple ne se pose pas du tout, qui d'ailleurs du coup sont plus jeunes. Mais, donc en effet, la rencontre avec un partenaire peut être relativement déterminante par rapport au fait de faire émerger ou non le désir d'enfant.
Est-ce que tu vois beaucoup de cas de figure où, en fait, le couple, enfin potentiellement l'homme et la femme, ne sont pas du tout alignés sur les timings de désir d'enfant ?
Alors, sur le timing, j'ai envie de dire, c'est assez fréquent que l'un des membres soit le premier à aborder la question au sein du couple. Et c'est pas toujours la femme. Souvent, on a cette idée que c'est les femmes en premier et tout, et c'est pas du tout toujours le cas. Il y a plein d'hommes pour lesquels c'est très important d'avoir des enfants et qui vont amener cette question-là assez rapidement dans la relation. Donc le fait qu'il y ait un décalage de temporalité par rapport à l'émergence, c'est quelque chose qui est très fréquent. Voilà. Après, la question qui va se poser, c'est est-ce que ça va venir être source de conflits, de tensions au sein du couple, ou est-ce que finalement le couple va co-construire ? C'est-à-dire le couple, c'est chacun des membres du couple, et puis il y a le couple, c'est une entité supplémentaire. Donc il y a le désir de chacun, et puis il y a comment le désir de chacun va se rencontrer avec celui de l'autre, et comment on va créer du nouveau, donc créer le désir du couple. Voilà, et donc ça demande une certaine forme de travail de la part du couple et des membres du couple, qui peut prendre plus ou moins de temps. Et donc là, évidemment, le couple va être mis un peu à l'épreuve. Et voilà, c'est un couple qui communique bien, qui est respectueux, si les angoisses peuvent être accueillies, voilà, ça va plutôt faire que cette temporalité, cette co-construction soit facile. Et puis pour d'autres, ça va être beaucoup plus compliqué. En tout cas, moi, j'invite toujours les personnes à prendre le temps d'explorer individuellement, en présence de l'autre. Voilà, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai envie d'avoir un enfant ? Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour moi ? Et qu'est-ce qui fait que chez mon partenaire, lui, il aurait le non-désir d'enfant ? Et qu'est-ce qui est si important pour lui ? Et que ça puisse se parler, se nommer, s'accueillir de manière bienveillante. Et puis ensuite, comment on va co-construire avec ça ? Parfois, le fait que de faire ce travail, ça va faire lever des angoisses ou des craintes. Parce que parfois, il y en a un qui est plutôt réticent parce qu'il a peur là aussi pour de multiples raisons, mais que finalement, d'entendre son partenaire lui dire « mais moi, je te vois père ou je te vois mère parce que je vois ça chez toi », ça peut être aussi très rassurant. Et puis, parfois, il y a des couples qui vont se séparer parce que pour l'un des membres, ce projet, ce désir sera trop important et va prendre le pas sur la relation de couple. Et là, je viens de dire projet, et c'est quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. C'est qu'il peut y avoir ce désir, il faut distinguer le désir du projet. Il y a plein de gens qui ont le désir d'avoir des enfants, mais qui n'ont pas forcément le projet, c'est-à-dire ils n'ont pas forcément le souhait de concrétiser ce désir. Ou on peut avoir le désir et se dire « c'est pas le moment, donc là, je ne vais pas le concrétiser ». Ou il y a des femmes qui auraient envie d'un troisième, d'un quatrième, d'un cinquième, mais qui se disent « c'est pas très raisonnable » ou peu importe, d'autres choses. Et du coup, qui vont décider de mettre en sommeil ce désir ou de ne pas le concrétiser, mais le désir est toujours là. Et ça aussi, je le vois pour des femmes qui vont se retrouver à la période de la ménopause, qui vient signer quand même quelque chose d'une fin physiologique. Alors même si aujourd'hui la PMA avec le don d'ovocytes permet à des femmes ménopausées d'avoir des enfants, voilà, ça vient quand même signer quelque chose qui symboliquement est quand même pas anodin dans la vie d'une femme, et que ce moment-là peut être très douloureux parce que justement ça pose la fin de la possibilité de concrétiser ce désir. Et puis, voilà, en tout cas, je crois que c'est vraiment important. Ou parfois, il y a des personnes qui viennent me voir en fin de parcours qui me disent « bon bah, de PMA, le parcours n'a pas abouti, bon bah maintenant, il faut que je fasse le deuil de mon désir d'enfant ». Je ne suis pas sûre qu'on fasse le deuil de son désir d'enfant. Voilà. Je pense que le désir d'enfant, c'est quelque chose qui peut nous animer toute la vie. On le voit aussi chez des grands-parents qui surinvestissent leur grand-parentalité. Quelle est la part, là, encore active de leur désir d'enfant? Alors, c'est sûr que ce désir d'enfant non assouvi, non concrétisé, il peut être très douloureux. Donc, c'est la question comment on va apprendre à vivre avec. Et on peut vivre avec le fait de désirer des enfants sans que ça soit douloureux. On peut travailler, il y a plein de choses qu'on peut faire pour pas que ça soit douloureux et qu'il n'y ait pas de projet ou d'aboutissement. Voilà, je pense que ça, c'est important de dire parce que là aussi, voilà, les gens qui disent « je ne veux pas d'enfants pour des raisons écologiques, par exemple », parfois, il y a ce désir, mais ils ont fait ce choix. Ils vivent avec ce désir, ils sont confortables avec ça, mais ils font le choix qu'il n'y ait pas de projet et de concrétisation de ce désir d'enfant. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nuances à apporter et c'est important de distinguer aussi les choses.
Tu parlais dans le millefeuille des peurs qui pouvaient venir ralentir ce potentiel désir d'enfant. Comment est-ce qu'on vient travailler ces peurs-là et quelles sont-elles généralement ?
Alors, il y a plein de peurs différentes. Hein. Souvent, elles sont quand même en lien avec l'histoire de la personne. En tout cas, voilà, ce qu'on peut entendre... c'est des personnes qui ont eu des enfances très douloureuses et qui ont pu subir des maltraitances, des violences, de la peur de leurs parents, voilà, ou être dans des familles très dysfonctionnelles et qui ont peur de reproduire ça. Voilà, je pense que la peur de reproduire quelque chose qui a été source de souffrance pour soi, voilà, c'est quelque chose qui peut être très présent et très inquiétant. Mais c'est pas une fatalité, hein. Pas parce qu'on a été maltraité qu'on devient maltraitant, hein, pas du tout, loin de là, et heureusement. C'est vrai que parfois aussi des histoires de vie où il y a eu des traumas, je pense là à des femmes qui ont pu subir là aussi des viols, des abus sexuels, pas forcément dans l'enfance, hein, mais qui vont être très impactées, très blessées. Évidemment, toutes les violences sexuelles, elles viennent aussi impacter la sexualité, donc ça peut impacter la fertilité. Donc ça peut avoir des répercussions sur ces questions-là. En tout cas, les peurs, elles s'inscrivent toujours, évidemment, voilà, dans le contexte, le monde dans lequel on vit, et puis voilà, dans l'histoire individuelle. Donc comment on peut y voir plus clair, là je pense aussi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est mon approche, mais quelques consultations, hein, qu'il ne s'agit pas forcément de partir en psychanalyse pendant 15 ans, hein, parfois 4-5 rendez-vous, permettent justement d'aller explorer ces peurs, d'où elles viennent, où elles s'inscrivent, et puis de pouvoir mettre la lumière sur les ressources. Sur « Ok, j'ai ces peurs-là, mais qu'est-ce que j'ai dans mon bagage ou qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher pour les dépasser, m'en affranchir, les faire miennes, les traverser ?» Parce qu'il y a des choses, des peurs qui sont là, qui nous traversent et puis qui disparaissent, qui partent aussi. Donc c'est comment on peut accepter aussi de se laisser traverser parce qu'il peut être inquiétant, parce qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, la parentalité, il y a souvent en tout cas le parent qu'on a envie d'être, qu'on imagine devenir, et puis après il y a la réalité qu'on rencontre. Donc, comment on va faire avec tout ça? C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'éco-anxiété, et en tout cas, moi, j'aurais envie de dire à tous les futurs parents ou parents éco-anxieux qu'il existe plein de choses qu'on peut faire pour réduire son impact carbone. Voilà, les couches lavables, pas acheter des gâteaux pour le goûter en paquet individuel. Voilà. En tout cas, si c'est cette question de l'écologie qui vient freiner le désir, mais qui a un désir. Qui vient freiner le projet alors qu'il y a un désir. Voilà, c'est important de s'informer justement sur qu'est-ce que je peux faire, quelles actions je peux mettre, même s'il est prouvé que d'avoir des enfants, c'est pas écologique. Mais moi, j'ai aussi beaucoup de parents qui me disent « Moi, j'ai eu des enfants parce que je crois en eux, je crois en l'humain et ce sont eux qui vont aussi nous aider à trouver des solutions pour répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et notamment aux défis écologiques. Et voilà, à côté, je vais acheter des couches lavables pour réduire un peu mon impact écologique. Ouais.
Et acheter des vêtements de seconde main.
Exactement, par exemple. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà.
Parmi ses peurs, moi j'ai une amie qui se pose beaucoup de questions quant à son désir ou non d'avoir des enfants. Et elle m'a cité une peur que je n'avais pas identifiée, qui était celle d'arriver à faire de potentiels enfants sains d'esprit et correctement armés pour les défis à venir de la vie. Comment on fait face à cette peur ?
En tout cas... Malheureusement, je ne peux pas dire à ton ami que tout ira bien et que le monde de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui, même si c'est ce que j'espère profondément. C'est difficile, voilà, je ne crois pas qu'il y ait un conseil, mais là, c'est comment... à nouveau, être parent, c'est très inquiétant. Voilà, et ça je pense que avant, pendant et après, ça ne nous quitte pas. d'avoir cette responsabilité d'un autre être qui se développe bien, qui grandisse bien, qui l'aille bien, c'est quand même en effet assez vertigineux. En tout cas, aujourd'hui, il existe énormément de choses pour aider, guider, accompagner les parents. Comme ton podcast, comme le mien, parentalité, encore d'autres. En tout cas, il existe beaucoup d'outils qui vont aider les futurs parents, les parents. Voilà, il y a de plus en plus de choses qui se développent. Il n'y a pas deux méthodes établies, il n'y a pas une manière de faire. C'est toute la complexité, la difficulté et tout ce qui est passionnant autour de tous ces sujets, autour de la parentalité, de l'éducation. Moi, je dis toujours aux personnes, c'est d'aller prendre ce qui leur convient. Voilà, qu'il y a autant de parents qu'il y a de parents, autant de parents qu'il y a d'enfants, qu'on n'est soi-même pas même le même parent avec chacun de ses enfants. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si pour ton ami, cette angoisse, elle est, ou cette question, elle est trop présente, voilà, je l'inviterai à aller dans un espace pour aller déplier cette angoisse-là et aller comprendre peut-être est-ce qu'il y a quelque chose derrière, voilà, ou qu'est-ce que ça vient dire de son histoire, qu'est-ce qui prend sens pour elle par rapport à cette question.
Il y a évidemment un sujet qui revient beaucoup dans le désir d'enfant, c'est celui de l'horloge biologique. Alors, comment est-ce qu'on vit avec cette pression quand on est une femme ?
Alors, cette notion hein, d'horloge biologique, elle est assez contestée hein, aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une création sociale. Alors, voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas notre propos. Mais il y a quand même une réalité biologique hein, quand même, chez les femmes et aussi chez les hommes. Ça me semble important de le dire. Hein. La spermatogénèse, elle diminue aussi avec l'âge. Hein. Donc ça ne concerne pas que les femmes. Après, c'est vrai que pour certaines femmes, cette question de l'âge, de la fécondité qui diminue avec l'âge, va amener un sentiment d'urgence. Qui peut être renforcée aussi par des âges dictés par des prises en charge. Voilà, par exemple, pour la PMA, il y a aussi un cadre d'âge voilà, à partir d'un certain âge, à partir de 43 ans pour les femmes. Elles n'ont plus droit, en tout cas, c'est pas qu'elles peuvent plus avoir recours à des techniques d'assistance médicale à la procréation, c'est que ça sera plus pris en charge par la sécurité sociale. Donc voilà, là c'est comment cette urgence personnelle, mais qui parfois peut être complètement décorrélée de l'âge, hein, voilà, qui parfois peut être en lien aussi avec des diagnostics chez des femmes en théorie voilà, à 30-35 ans. Mais en tout cas, c'est toujours comment cette temporalité individuelle vient rencontrer une temporalité médicale, comment la temporalité émotionnelle psychique aussi vient rencontrer la temporalité médicale qui est pas toujours la même, voilà, et que parfois ça arrive, hein. L'autre jour j'avais une patiente qui me disait, qui approche de la quarantaine, qui a pas d'enfant, et qui me disait, c'est mon médecin qui me pousse, parce qu'elle me dit que l'heure tourne et qu'il faut que je me positionne par rapport à cette question, alors que finalement pour elle c'était pas vraiment une question, donc là c'était vraiment l'urgence du médecin que le médecin faisait porter sur la femme. Bon, voilà, à nouveau la question va être comment on va gérer ce sentiment d'urgence pour qu'il soit pas trop envahissant, qu'il soit pas trop source de souffrance. Et là aussi, voilà, se faire accompagner, ça peut être une bonne idée.
Je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que, avec le temps qui passe, le désir d'enfant viendra, et que c'est peut-être une bonne technique d'attendre, l'horloge tourne. Lorsqu'on est incapable de répondre à cette question, qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, parfois, le temps, en effet, amène la réponse, et parfois pas. En tout cas, moi, la question que je vais poser, c'est est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est source de souffrance ? Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont jamais répondu à cette question et qui vont très bien, qui sont très bien, qui sont très confortables. D'autres pour lesquelles c'est douloureux. Voilà. Si c'est douloureux, là, à nouveau, il ne faut pas rester avec ça. Là, à nouveau, se faire accompagner, avoir un espace pour parler de ça, essayer de trouver des réponses, ça va aider. Voilà.
Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur le désir d'enfant ? Parce qu'on arrive bientôt à la fin de cet épisode ensemble. Est-ce que tu penses à des choses qu'on n'aurait pas évoquées qui seraient intéressantes pour tous les auditeurs qui nous écoutent ?
Si, c'est peut-être comment ce désir, il peut être freiné par des événements. Là, je pense par exemple à des femmes qui vivent malheureusement des accouchements traumatiques ou des femmes qui vont... traverser une dépression du postpartum, comment ces événements finalement en lien avec le devenir parent, s'ils sont devenus parents, est venu impacter ce désir. Et que parfois, oui, ça l'impacte, ça vient le mettre à mal, ça peut même parfois l'annuler. Hein. Il y a des femmes qui peuvent dire j'aimerais avoir 3 enfants, et puis l'arrivée du premier à un tel cataclysme, ça stoppe net le désir. Donc là aussi, s'il y a des choses qui sont venues perturber, qui génèrent des questions, qui génèrent de la souffrance, là aussi c'est important d'être accompagné. Et là je pense à toutes ces situations d'accouchement traumatique, de situations de dépression du postpartum. Voilà, c'est vraiment important d'être accompagné sur ces questions-là, parce que ce sont des souffrances qui peuvent rester parfois très longtemps, alors qu'il existe plein de choses aujourd'hui. Il existe aussi voilà, des approches thérapeutiques comme l'ICV, comme le MDR, voilà, qui permettent vraiment d'apaiser les personnes. Voilà, on n'est pas obligé de souffrir et de porter cette souffrance toute sa vie. Et qu'en plus, c'est des répercussions sur un projet de vie qu'on avait initialement.
J'ai une question rituelle maintenant, à la fin du podcast. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ?
Et ben moi, ce que je leur souhaite, c'est de développer leur esprit critique, voilà, pour vraiment comprendre et s'adapter au monde dans lequel ils vont vivre, grandir, qui est en perpétuel changement. Voilà, je pense que cette question de l'esprit critique, c'est vraiment quelque chose qui est très important, de garder son libre arbitre, voilà, de pouvoir se questionner. Et là aussi pour les parents d'aujourd'hui, voilà, que tout ce qu'ils entendent sur la parentalité, voilà, qu'ils prennent ce qui est important pour eux, ce qui leur parle, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre et tout prendre au pied de la lettre. Voilà, par rapport aux différentes guerres de chapelle qu'il y a pu y avoir ces derniers mois, ça me semble important de le rappeler. Et puis j'aurais envie aussi de leur souhaiter d'être acteurs de leur vie. Voilà. Et mon souhait, et notamment à travers le podcast, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage, Stéphanie, c'est d'aider les parents à être acteurs de leur parentalité pour les aider à rendre leur enfant acteur de leur vie. Voilà. Et je pense que quand on est acteur de sa vie, on fait des choix plus librement, de manière plus en conscience aussi. Et en tout cas, moi, j'ai cette croyance que c'est ce qui rend plus heureux.
Je suis d'accord avec toi. Bah, merci beaucoup, Mathilde.
Merci à toi, Stéphanie.
À très bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaies.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.